Et salut Kurt!
Salut Mad, comment ça va?
Ouais, bah écoute, ça va avec les beaux jours qui reviennent, les week-ends prolongés, là, on sort d'un week-end de 3 jours, c'était plutôt agréable.
Ah, le week-end de Pâques, c'est toujours chouette, ouais. Et puis là, en plus, on sait qu'on va en enchaîner une petite poignée dans les semaines qui viennent.
Bah c'est ça qui est sympa avec le week-end de Pâques, c'est tu sais que c'est le premier week-end d'une longue série qui s'annonce, et donc on en profite, quoi.
Exactement.
Salut!
Hey, salut Lana!
Comment vous allez?
Salut Lana.
Bon, on parlait de nos week-ends prolongés, que c'est plutôt sympa, quoi, surtout quand t'es joueur.
Ah, tu m'étonnes. Vous en avez profité?
Ah ouais, moi j'ai pas mal joué, ouais.
Ah bon? T'as joué à quoi?
Alors, j'ai joué à un vieux jeu allemand qui s'appelle Moule und Monnaie. Je suis désolé pour ceux qui parlent l'allemand, je suis pas très bon à ce niveau-là. Il a aussi un titre anglais qui s'appelle Industrial Waste. Donc, le jeu auquel j'ai joué là pendant le week-end de Pâques, donc comme je disais, c'est un vieux jeu allemand qui date de 2001, où le but du jeu, c'est de gagner de l'argent, de gagner un maximum d'argent. À la fin de la partie, c'est celui qui a gagné le plus d'argent qui gagne. On est vraiment dans le... On joue des industriels, chacun joue des industriels, et le but du jeu, bah, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire de la thune.
Eh ben disons, je te savais pas si capitaliste, ça fait déjà 5 fois que tu dis gagner de l'argent quand
Ben
même.
voilà, justement. Mais non, mais c'est ça qui est bien. Le jeu, ça permet de se mettre dans des situations dans lesquelles on n'est pas vraiment, tu vois. C'est le cercle magique.
Pourtant, c'est hyper réaliste, hein.
Ah oui, et puis surtout, vous allez voir quand je vais vous raconter comment ça se passe.
Tu spécules sur le prix de l'essence?
Ah, non, mais ah, t'es pas. Il y a un petit peu. Il y a quelque chose, tu verras, il y a quelque chose comme ça.
Ok, raconte-nous.
Pour gagner de l'argent, en fait, là, le but, c'est on va produire des marchandises grâce à des usines parce qu'on est des industriels. Donc, pour produire, il faut acheter des ressources, il faut améliorer son efficacité, il faut développer son efficacité. Donc, jusque-là, on est vraiment dans un jeu de gestion assez classique. Sauf que le jeu, il ajoute quand même quelque chose. Il ajoute la pollution. Parce qu'en fait, effectivement, bah oui, dans la production industrielle, qui dit production industrielle, dit déchets industriels. Et puis, bah, les déchets, bah, faut bien en faire quelque chose. Donc, on peut les stocker, on peut payer pour les traiter correctement, ou bon, on peut être un peu filou, on peut essayer de s'en débarrasser de façon un peu plus douteuse. Donc c'est là que le jeu devient super intéressant parce qu'il introduit une vraie tension entre la rentabilité et la responsabilité du joueur. Enfin du joueur, l'industriel évidemment. Donc le jeu en fait il joue autour de cartes. On a des cartes qui sont c'est des cartes multifonctions. Donc à chaque tour on va mettre des cartes en jeu. Il va falloir qu'on en choisisse des lots. Et après, il va falloir qu'on choisisse comment les utiliser, ces cartes. Donc, les cartes, on va s'en servir pour produire, pour investir, pour embaucher, pour licencier. Il y a certaines cartes qui ont des effets spéciaux. Et donc, ce système, il oblige à faire des choix. Parce que le nombre de cartes, évidemment, est hyper limité. Donc, une carte qu'on utilise pour produire, on l'utilise pas pour ses autres actions, évidemment. Et à côté de ça, on doit gérer son entreprise dans l'ensemble. En fait, on doit gérer plus on produit, plus on gagne. Mais plus on pollue, évidemment. Et à côté de ça, on peut optimiser l'entreprise pour devenir plus efficace. Mais bon, ça, on doit virer des employés pour ça. Après, il y a des décisions qui donnent des avantages, mais avec des conséquences sur le long terme. Le jeu, il permet aussi des actions plus agressives que ça, ou moins morales. Par exemple, il y a certaines cartes qui permettent de contourner les règles, de corrompre, ou même de refiler les problèmes aux autres joueurs. C'est pas, ah bah oui, tant qu'à faire, pourquoi polluer chez moi quand je peux balancer les déchets chez le voisin? Donc c'est pas du conflit frontal, hein, mais il y a l'interaction indirecte, elle est là. Et plein de petits coups bas, en fait, on s'envoie les déchets chez les uns les autres, on se pique les matières premières, etc. On fait baisser le prix, on fait baisser, monter ou baisser le prix des marchandises pour que, bah, ça serve ou ça desserve les autres, ou soi-même de préférence. Et puis de temps en temps, il y a un petit contrôle environnemental. Donc à ce moment-là, le jeu vérifie si l'entreprise respecte les normes. Si t'as trop pollué ou mal gérer tes déchets, bah tu prends des pénalités. Et souvent, c'est des pénalités financières. Hein. Faut taper l'eau, ça fait mal. Ça empêche les joueurs de jouer uniquement sale. Donc, il y a quand même des conséquences dans ce qu'on fait. Et ça oblige à anticiper. Et voilà, c'est ça qui est intéressant dans le jeu, parce que le jeu ne nous dit jamais quoi faire. On peut jouer tout à fait de manière soit sécurisée et éthique, qui est pas forcément le plus rentable, ou au contraire, on prend des risques pour maximiser les profits. Mais il y a le retour de bâton. Et voilà, donc faut trouver l'équilibre. Jusqu'où on est prêt à aller pour gagner. Voilà, le thème, il est vraiment marqué. On ressent vraiment la vision cynique du monde industriel, là où la recherche du profit passe souvent avant l'écologie et le social. Vous voyez, même pour un jeu de 2001, il reste super, super actuel, super à jour. C'est traité sur un ton un peu ironique, mais ça reste très 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 présent dans les mécaniques. Ça vous dit quelque chose, vous, ce jeu? Vous connaissiez? Vous y avez joué?
J'y avais joué une fois, Et je me souvenais plus que c'était si moral ou immoral, parce que finalement, ouais, tu fais ce que tu veux. C'est un vieux jeu, ça. Hein. Mais du coup, t'es uniquement pénalisé si tu te fais choper, quoi.
Oui, ah bah oui.
Oh, purée. Ouais, pas très moral, tout ça. Bon, ça veut dire quand même qu'on avait conscience, même en 2001, qu'on polluait quand même déjà pas mal la planète. C'est plutôt bon
signe. C'est déjà pas mal, oui.
Ouais.
Alors moi, je me demande qui a gagné. Est-ce que c'était la personne la plus morale ou est-ce que c'était la personne qui a joué dirty dans la partie que t'as faite ?
À la fin, non, c'est la personne qui a joué le plus... Alors, c'est pas la personne qui a joué le plus salement parce que lui, il s'est fait rattraper, mais c'était le deuxième qui a réussi à se glisser entre les mailles du filet quand même. Parce que c'est lui qui avait...
C'est le plus filou, quoi.
C'est le filou, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'à la fin, il y a quand même... faut avoir le plus d'argent et je crois que celui qui a joué le plus sale, il s'est fait rattraper. Il a eu des pénalités juste avant la fin.
Parce que finalement, la morale de tout ça, c'est pas que si tu joues en polluant ou en virant tes employés ou en corrompant les autres, en fait, comme disait Lana, faut juste pas se faire choper. Donc effectivement, la morale, elle est un peu immorale, quoi.
Oui, on est d'accord.
La vraie vie, c'est très réaliste
c'est
comme
très
jeu.
Très réaliste, ouais, ouais.
Ouais, c'est cynique, quoi. Ouais.
C'est tout à fait.
Carrément.
Parce que finalement, c'est tu peux faire ça, mais juste te fais pas choper, quoi. Donc ouais. Parce que quand tu disais, je dis c'est pas inintéressant. Et puis sur certains jeux qui commencent à émerger aussi ces dernières années, qui font un peu réfléchir à ce qu'on est en train de jouer ça va quand même pas nous donner des leçons de vie, mais en tous les cas, ça fait un peu réfléchir. Là, finalement, ça nous fait réfléchir en nous disant, gruge autant que tu peux, si tu te fais pas choper, c'est bon. Ok.
C'est un sentiment qu'on a de temps en temps, ça me fait penser à d'autres jeux qui font ça, et où t'as l'impression qu'il y a un message écologique, et à la fin, tu te rends compte que non, finalement, faut quand même faire des points, donc tu fais bien de raser ta forêt quand même à la fin, juste pour gagner les points du bois, tu vois. Enfin bon, c'est... Voilà. Mais bon, voilà.
On sent que les jeux ont évolué quand même depuis 2000.
Il y a quand même une évolution, oui, effectivement, ouais. non, mais bon, voilà, je tenais à en parler parce que j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, mine de rien, comme on dit, ouais, pour un jeu de 2001, c'est un jeu de gestion qui est accessible, mais intelligent. Il y a quand même un vrai mélange entre optimisation, de la gestion, du risque, de l'interaction. Et puis, le thème est original, quand même. Surtout pour l'époque, il y a quand même pas tant de jeux que ça qui nous parlent de la pollution et des dérives industrielles, quoi. C'est pas juste un jeu de gestion, c'est un jeu où les décisions ont un coût. Et voilà, le coût, il va être ou financier, ou écologique, ou moral. Après, chacun en tirera les conséquences et en tirera ce qu'il en veut, quoi.
Là, il y a une phrase qui me vient en tête et que j'ai dit il y a pas longtemps dans une émission qui est sortie. Récemment, c'est ce choix aura des conséquences.
Voilà.
Je ferme la parenthèse, c'est juste le lien avec un jeton dans la main. Alors, cela dit, je reviens sur l'immoralité éventuelle du jeu, là, c'est pas se faire choper et tout ça. Un des grands plaisirs que j'ai eu en jouant ces dernières années, c'est quand même le jeu, vous savez, avec la pyramide de Ponzi où il y a Trump en couverture, là, où on fait des prêts qu'on rembourse avec d'autres prêts, enfin vous connaissez le système de la pyramide de Ponzi,
oui.
Et j'ai tellement kiffé ce jeu, donc voilà, je suis là un peu en train de me dire oui mais bon ce jeu, mais en fait à jouer ces grands patrons qui rachètent des usines pour enfouer leurs caisses et puis alors qu'ils n'ont pas la thune qui va derrière, j'ai eu quand même énormément de plaisir à jouer à ce jeu, donc j'imagine que tu as peut-être eu un plaisir équivalent toi en jouant au jeu dont tu parles.
Exactement. C'est un jeu de Jürgen Strom et illustré par Franz Wowinkel.
J'ai envie de rebondir sur ce que t'as dit.
On t'écoute.
Vas-y, Mad.
Bon, alors moi aussi, j'ai joué à un vieux jeu et un jeu encore plus vieux que le tien parce que celui auquel j'ai joué, il date de 2000, donc je te bats d'une année. Et... Ouais, et mon jeu, il est aussi illustré par Franz Wowinkel, parce que cet illustrateur, en regardant un petit peu ce qu'il avait fait, il est quand même crédité sur plus de 500 jeux, presque 600, dont Ricochet Robot, Puerto Rico, et donc le jeu dont tu viens de nous parler, dont je vais pas redire le nom parce que là, je m'en rappelle plus, je sais que... voilà, de West Industry, quoi. Donc finalement, on a pas mal de points communs. Je commence à voir une espèce de fil rouge qui est en train de se dessiner dans notre discussion. Alors le jeu dont je vais vous parler, Quand on voit la boîte, c'est un appel. Tu vois la boîte, tu dis « je veux jouer à ce jeu-là ». C'est une illustration complètement improbable, avec sur laquelle on voit deux personnages, mais ce sont des marionnettes. Et donc, on voit un roi et on voit un cardinal, parce que le jeu est en allemand, c'est « Karnickel und König », qu'on va trouver sur BGG sous le nom de Web of Power. Et en fait, donc c'est une espèce de petit théâtre de marionnettes où on voit ces deux personnages. Et donc ce jeu a eu deux rééditions, une réédition en 2005 sous le nom de China et une édition en 2020 sur le nom de Iwari. Huh. Et l'auteur, c'est Michael Schach, qui voilà, a commis Lucky Numbers, par exemple, ou Coloretto. Bon, voilà. Alors, premier truc cool de ce jeu, parce que c'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Premier truc cool de ce jeu, t'as un plateau. Et ce plateau représente une carte sur laquelle on va déposer des éléments. Un petit peu avec le feeling Rebirth, que moi j'ai vraiment bien, bien aimé. Et donc, cette carte, elle aussi, elle est priceless parce que donc c'est une géographie, hein, c'est des pays qui sont représentés, il y a la France, il y a l'Espagne, il y a l'Angleterre et tout ça. Mais c'est une géographie un peu approximative. Ne prenez pas la géographie sur cette carte parce que le Massif central, il n'est pas tout à fait placé au bon endroit et les superficies ne correspondent pas vraiment à la réalité, mais c'est chouette à voir. Et donc sur cette carte, on va poser des abbayes, donc les cardinales, et des conseillers qui sont aussi des conseillers, d'après ce que j'ai compris du lore, qui sont les conseillers de la religion. Parce que là, on est dans une ambiance lutte de pouvoir avec la religion qui essaye d'influencer les choses. Voilà pour la présentation générale. Alors maintenant, comment on joue ? Alors, comme je vous l'ai dit, on va poser des éléments sur le plateau. Donc, il y a un petit feeling aventurier du rail. Au lieu de poser donc des wagons, on va poser des abbayes et on va poser des conseillers. Et on va les poser comment ? En jouant des cartes. Vraiment, il y a une lignée directe avec, j'ai envie de dire, une voie de chemin de fer directe sur les aventuriers du rail. Mais les aventuriers du rail sont sortis en... Et j'interroge Kurtz, qui est le grand spécialiste.
Je sais plus, mais c'est largement après.
Interro-surprise.
Je l'ai pas.
Bon, en 2004, c'est pas grave. T'es pardonné, faut que j'arrête de faire ma maîtresse. Mais voilà, ça me réussit pas. Et donc, les cartes que l'on a en main, on en a trois. On en a trois en main. Elles ont deux couleurs, en fait. Elles ont deux pays. Je sais pas, moi, par exemple, la Bourgogne et la Suisse. Et, sauf la France, elle, c'est juste. Il y a la carte France. Les Français ne se mélangent pas avec d'autres pays, visiblement. Et donc, quand on joue une carte, on choisit donc le pays quand il y en a deux sur, qui nous intéressent et on va aller pouvoir poser un élément dans ce pays. Ok, ça va, vous me suivez ?
C'est clair. Ouais, c'est clair.
Et si je mets une autre carte de ce même pays, je vais pouvoir poser un deuxième élément. On joue toujours dans le même pays à son tour, hein, on ne peut pas panacher. Et si je n'ai pas une deuxième carte de ce pays, je peux en jouer deux qui sont pareils et ça va faire comme un joker, voyez ? Okay. Donc je peux jouer une carte pour la Bourgogne et puis deux cartes Frankreich pour faire mon deuxième Bourgogne si je veux poser deux éléments. Donc à notre tour de jeu, on va jouer une, deux ou trois cartes. Ok ? Puis après on refait sa main et pour refaire sa main, on a une petite rivière de deux cartes. On peut choisir dans cette petite rivière ou piocher en aveugle dans la pioche. Je vous ai expliqué quasiment toutes les règles à quelques détails près. Le premier détail, et attention, c'est hyper crucial. Donc là, j'ai repris exactement, je vais vous citer exactement la phrase de la règle. Les abbayes, on peut en poser autant qu'on veut tant qu'il y a de la place, parce que les places sont limitées. Mais les conseillers, le nombre total de conseillers dans un pays ne peut pas être supérieur au nombre d'abbayes appartenant à la couleur de celle qui en a le plus.
Ouais.
Ok.
Ça va ? Donc, par exemple, si dans le pays, on a 4 abbayes rouges et 2 abbayes bleues, on peut poser au maximum 4 conseillers. Ça va ?
C'est clair.
Et cette règle, elle a l'air de rien, mais c'est ce qui fait tout le sel du jeu. Alors voilà, on va jouer... Tout ça, on va poser nos petites abbayes, on va poser nos conseillers quand on peut en poser. Et quand la pioche se termine, on fait un premier scoring. On va scorer les abbayes. Alors, comment est-ce qu'on va les scorer? Alors, pareil, accrochez-vous. Celui qui a le plus d'abbayes dans un pays, par exemple 4 bleus, 2 jaunes, 1 vert, donc le bleu, va gagner autant de points que le nombre total d'abbayes. 4 plus 2 plus 1, il va gagner 7 points.
Mmh.
Ok. Mmh. Le deuxième, lui, il va gagner le nombre d'abbayes du joueur qui le précède. Donc le jaune qui avait 2 abbayes, qui est en deuxième position, il va scorer 4, le nombre d'abbayes du bleu qui était devant lui.
Ok.
Et donc ça fait un jeu hyper opportuniste. Parce que si on voit à un moment donné quelqu'un qui s'installe bien avec ses abbayes dans un pays, il suffit de mettre une ou deux abbayes pour se positionner en deuxième position s'il n'y a pas d'autres personnes ou s'il n'y a plus trop de place. Et du coup, on va les grappiller des points. Parce que le troisième, il va scorer le nombre d'abbayes du deuxième. Et le quatrième, il va scorer le nombre d'abbayes du troisième, etc., etc. Donc ça fait un jeu hyper opportuniste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas aller mettre ta petite abbaye où ça va bien pour aller scorer les points de quelqu'un qui s'est bien installé dans un pays. Ok. Dernier élément.
Mais les conseillers.
On y arrive. Dernier élément. La fin de partie, c'est quand la pioche se termine pour la deuxième fois. Et là, on va scorer les abbayes encore, de la même façon. On va scorer les chaînes d'abbayes qui font des petits chemins, vous savez, qui vont se suivre. C'est pour ça qu'à un moment donné, il risque d'y avoir une bonne concentration d'abbayes dans un pays parce qu'on fait un petit chemin avec ces abbayes. Les abbayes se rejoignent les unes des autres. Et là, on marque un point à partir de 4 abbayes comme ça sur un chemin. Et puis, on va scorer les conseillers. Et alors, les conseillers, c'est des histoires d'alliance. C'est-à-dire que les pays, ils vont avoir des frontières communes. Et si on est majoritaire en conseiller dans 2 pays limitrophes, dans ces cas-là, et seulement dans ce cas-là, on va scorer le nombre total de conseillers qui sont de part et d'autre de la frontière. Et c'est seulement la personne qui est majoritaire dans 2 pays qui va scorer. Les autres, c'est 0. Et ça, c'est hyper violent. Alors, je vous ai raconté tout ça pour pouvoir vous expliquer pourquoi j'ai kiffé ce jeu. J'ai kiffé ce jeu parce que les règles au début, il n'y a quasiment rien, quoi. C'est les aventuriers du rail. Tu joues une carte, tu poses ton truc, à la limite, tu joues 2 cartes, t'en poses 2, tu fais ton petit chemin d'abbaye, tu te positionnes un peu partout, puis après tu dis, il va falloir quand même que je mette des conseillers. Et là, en fait, tu sens la tension qui monte, parce qu'au début, c'est gentillet. On va où on veut, dans les territoires, on bloque un chouïa quand quelqu'un veut faire un petit chemin d'abbaye, on a pas mal d'options si on n'y arrive pas, si on est bloqué. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que ça fait bien un quart d'heure que plus personne ne parle autour de la table. Ce petit jeu qui paye pas de mine, eh bien fait qu'on va se poser mille et une questions, parce que si à un moment donné tu mets une abbaye dans un pays, eh ben, ça donne la possibilité à quelqu'un d'autre de rajouter un conseiller si c'est toi qui avais le plus d'abbayes. Donc, t'hésites à aller mettre ta fichue abbaye parce que du coup, tu offres la possibilité aux autres d'asseoir leurs alliances. Et ça, c'est mortel, quoi. Parce que ça va être qui va lâcher en premier. Et puis, s'ajoute à ça les petits coups opportunistes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va récolter un petit peu de miettes par-ci, un petit peu de miettes par-là, puis à la fin on commence à avoir quand même une bonne ration. Et donc il faut vraiment toute la première partie, et c'est vraiment le plaisir de ces premières parties, où tu découvres les implications, où tu découvres, où tu es surprise parce que le jeu t'apporte en fait, parce que le jeu dans quoi il t'emmène. Et voilà, donc j'ai vraiment super envie de savoir s'il y a d'autres personnes qui ont joué à ce jeu, pour voir s'ils ont vécu un peu la même chose que moi, mais moi je me suis fait happer par ce jeu, fauché par ce jeu, on me disait, auquel j'avais vraiment super envie de jouer parce que la couverture elle était ouf, quoi. Mais vraiment, je me suis fait prendre par le truc. Je me suis d'ailleurs mis une alerte au Caséo, hein, du coup, ou si vous avez ça chez vous et que vous en voulez pas, moi ça m'intéresse. Voilà, jouez à Cardinal Unkönig, vous ne serez pas déçus, parole de Mad.
Vous avez joué à combien?
4.
Ouais. J'ai joué à ce jeu, on l'a dans l'assaut de jeu où je vais, et je l'ai ressorti. Alors, c'était des règles en allemand, mal traduites, etc. Et j'en ai un bon souvenir, mais c'était il y a des années et des années. J'y ai pas rejoué depuis. J'en ai vaguement un bon souvenir, mais tu vois, tu me donnes envie de le ressortir, là. Hein.
Ouais, vraiment essayer. Ça paye pas de mine. Tu dis, bon, on va jouer à un aventurier du rail. Alors attends, je connais l'amour d'aventurier du rail sur certaines personnes à cette antenne. Donc je ne dirais pas de mal d'aventurier du rail, mais tu dis, oui, ok, on a déjà vu.
Oui.
Et en fait, tu retiens ta respiration à un moment donné. Et tu dis, ah, mais merde, mais si je fais ça. Ah, bah non, mais. Et là, je... oh là là, pétard.
Ah oui, non, non, mais il est. Il est fantastique ce jeu, il est mieux que les aventuriers du rail. J'y ai joué, j'ai un souvenir fantastique, exceptionnel, de se dire, si je rajoute une abbaye là, je fais une plus longue ligne, donc ça me fait des points. J'ai aussi le plus d'abbayes dans ce pays, c'est cool, donc je vais marquer des points. Mais là, je lui donne la possibilité, si moi je rajoute une abbaye ici, il peut rajouter un conseiller. Donc, il prend le lead entre la France et la Bourgogne. Il prend aussi le lead entre la France et l'Angleterre, et le lead entre la France et l'Aragon. C'est peut-être pas si bon plan que ça de rajouter une abbaye à cet endroit-là. Alors attends, maintenant, si je rajoute une abbaye à cet endroit-là... Non, non, c'est grandiose. C'est vraiment... Et comme tu dis, oui, on se retrouve avec des grands moments de personne ne parle, tout le monde se regarde les uns les autres à se dire qu'est-ce qu'il va poser, parce que comme tu dis, forcément, l'abbaye que tu rajoutes t'offre la possibilité au suivant de faire quelque chose. C'est vraiment chouette, ouais.
Mais c'est vraiment dans le regard des gens que ça se passe, en fait.
Ouais, c'est ça.
Parce que... Voilà, la personne ne parle pas, puis à un moment donné, elle lève la tête, et là, nos regards se croisent, et tu sais que... Ah ouais, alors t'y vas ou t'y vas pas? Tu la mets, cette abbaye en Angleterre, ou tu la mets pas?
Excellent.
Trop bien.
Eh bien, moi qui pensais vous parler d'un vieux jeu, eh bien, il est moins vieux que, ouais, que celui dont vous parlez. Parce que moi, j'ai joué à des Vulgari Eloquentia, qui date de 2010. C'est pas tout jeune quand même. Hein.
Ah oui, oh, c'est récent. Ah ouais, un récent jeu. Là.
Et en fait, c'est un jeu, j'y avais jamais joué. Et en festival, je débarque à un festival. Alors, c'était pas à Poix, hein. C'était de nuit. Mais
oui, c'est pas encore Poix, voilà, c'est dans quelques semaines. Enfin, non, c'est... Mais non, c'est dans quelques jours. C'est dans 3 jours.
Il y a quelques jours, c'était à nuit. Et il y avait ce jeu qui avait été amené par un bénévole. Et ce jeu-là, on m'en avait dit, mais tellement, tellement de bien. Enfin, je me suis jetée dessus et j'ai essayé de trouver le propriétaire du jeu pour qu'on m'explique les règles. Parce qu'on m'a dit, ce jeu est génial, mais les règles sont horrible. Donc, trouve quelqu'un pour te l'expliquer.
Ah.
Et en effet, hein, y a plein de micro-règles, c'est un peu lourd, l'icono, elle est pas claire, sur le plateau, il manque plein d'infos. Et pourtant, le jeu, waouh. J'ai fait une première partie à 3, avec des règles hyper approximatives, au milieu d'un festival, donc pas idéal, et pourtant, beaucoup de plaisir. Et ce jeu-là, bah, je l'ai chez moi, j'avoue, il était encore dans la pile de la honte, parce que personne me l'avait expliqué. 2 jours plus tard, histoire de pas perdre le bénéfice de connaître les règles, et ben hop, je le sors pour y jouer à la maison, parce que c'était pas avec les gens de la maison que j'y avais joué. Reconfig à 3, je reliais les règles, je découvre toutes les erreurs qui ont été faites dans la première partie, parce que vraiment, il y a plein de micro-règles, plein de petites choses, et c'était parti. Donc, un vieux jeu, et alors... Vous avez réussi à citer les illustrateurs sur la boîte. Eh ben, en 2010, bizarrement, il n'y avait même pas le nom des illustrateurs sur la boîte. Par contre, aussi moche couverture, je pense que Cardinal Ankonig, c'est hyper marronnasse, hein, c'est presque grisâtre tellement c'est marron. Et pourtant, pour un vieux jeu, moi j'ai trouvé qu'il avait plein de concepts de jeux hyper innovants. Et je vous détaille ça. Donc au début du jeu, on est tous des marchands dans l'Italie du Moyen-Âge. Il y a un système de points d'action qu'on va dépenser et on va pouvoir se déplacer dans différentes régions du pays et activer des actions ou récupérer des ressources disponibles à ce tour-là ou récupérer un manuscrit en fonction de la ville où on se trouve ou essayer d'avancer sur différentes pistes pour gagner des points en fin de partie. Mais sans garantie. Vous voyez, il y a un petit côté salade de points, t'as plein d'actions possibles et tu vas pouvoir scorer sur des axes différents. Et le jeu, il va s'arrêter au bout d'un certain nombre de tours. Bah, je dis certain, mais en fait, bah non, c'est pas certain, c'est un incertain nombre de tours. Entre 13...
Mais il va bien se finir quand même, quand tu dis c'est pas certain.
Oh, il se finit quand même.
C'est fini le jeu quand même. Ouais, t'es pas en train d'y jouer encore là. Ouais.
C'est un peu, tu sais, comme dans Alhambra. Tu sais pas exactement quand va être le dernier scoring.
Eh oui.
Bon, là, c'est moins brutal. En fait, tu simules l'élection du pape. Donc, bah, c'est marrant parce que fumée blanche, tu continues à voter et à jouer. Première fumée rouge, tillé presque, et hop, deuxième tuile rouge, deuxième fumée rouge, c'est le dernier tour, le pape est élu, tous les joueurs se retrouvent à Rome, et ils doivent faire leurs dernières actions à partir de là. Et d'ailleurs, faut espérer pas être trop loin des actions qu'on avait repérées si on est à Rome, parce que sinon, on pourra pas. Et c'est un jeu, je sais pas si vous connaissez Flotilla, et ben, en cours de la partie, on va pouvoir décider de changer de rôle. Alors, c'est pas obligatoire, mais en fait, si on le fait, ça change un peu la façon de jouer. Donc, on peut, pendant cette partie, choisir, donc on était marchand, on peut décider de s'engager dans les ordres. Et à ce moment-là, notre but, il va se focaliser sur l'étude des manuscrits, sur l'avancée des pistes et sur la récupération des votes pour monter dans les rangs. Et en fait, ça va changer l'interaction avec les autres joueurs parce que, désormais, les cléricaux, ils vont récupérer l'aumône des marchands les plus riches. Donc, je vous raconte pas la frustration quand t'es marchand de gagner durement ton argent et paf, tu dois le donner aux autres joueurs et du coup, ça te plante ton tour parce que t'avais peut-être prévu d'utiliser l'argent pour faire autre chose.
Ouais, mais si tu vas aller au paradis, t'as pas le choix, hein.
Ben, quand t'es marchand, tu t'en fiches.
Faut faire la charité, hein.
Et les cléricaux, l'aumône, elle tombe à tous les tours, hein. Ça m'a également fait penser à un autre jeu, à l'année du dragon de Stefan Feld. Et ça pour trois raisons. Mmh. La première, c'est qu'à chaque tour, il y a un événement qui va arriver. Et on le voit arriver, hein. Ici, on peut décider par contre d'en bénéficier ou non. Et ça demande un petit peu de préparation parce que ça va arriver dans une région d'Italie. Et bah, il faut être au bon endroit, au bon moment, si on veut en profiter. La deuxième raison, c'est l'aridité des ressources. Là, c'est vraiment compliqué d'en avoir, et même dans des Vulgari Eloquentia, suivant l'ordre du tour, les autres risquent de se servir avant nous. Donc il va vraiment falloir peut-être se battre pour être premier à ce tour-là et pour espérer avoir les ressources qu'on souhaite. Et la dernière raison, c'est un choix vraiment compliqué de comment j'utilise mes ressources. Dans l'année du dragon, en fait, le choix va se faire plutôt entre éviter un malheur et faire des points. Et eh bien ici, dans celui-là, ça va être ma dépense de points d'action qui est très limitée, qui va déterminer si je joue plutôt pour de l'immédiat ou si je mise sur l'avenir, parfois sans garantie. En fait, pour moi, ce jeu, il va offrir une interaction qui évolue, un mix parfait entre la programmation et l'opportunisme du tour en cours et une fin qui arrive un peu de façon impromptue. Je trouve que le mélange marche super bien. J'ai un seul regret, j'avoue, c'est d'y avoir joué uniquement en config 3 joueurs, parce que je suis sûr qu'à 4 ou 5 joueurs, parce qu'ils proposent même d'être joué à 5, tu dois avoir encore plus d'interactions, encore plus de différences entre les marchands et les cléricaux, et des batailles encore plus fortes. Je sais pas si vous y aviez joué.
Non.
Moi, je me souviens d'une vieille vidéo Trick Track avec les exclus parties et tout ça. Voilà, donc j'ai un vague souvenir de ce jeu qui est assez foisonnant, hein, et je me souviens en fait ce qui m'avait marqué, c'était le fait de justement pouvoir devenir un ecclésiastique, enfin changer de spécialiser un peu ton
personnage. Et qui change ta façon de jouer. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé dans beaucoup de jeux. Il y a eu Flotilla où pareil, tu peux basculer et changer de façon de jouer. Mais en cours de route, c'est pas si commun. Et du coup, pour un jeu de 2010, je trouve que c'est vachement innovant.
Par contre, j'ai joué à l'année du dragon et j'y ai joué en sachant que ça allait être difficile.
Oui.
Tu sais, quand t'es un peu prévenu, tu vois que dans le jeu ça va être compliqué, voilà, qu'il faut bien anticiper les trucs et tout ça, tu joues pas tout à fait pareil, tu te fais pas avoir. C'est comme quand tu joues à Grand Austria Hotel, on dit attention, oublie pas l'empereur, tu vois.
Ouais, c'est
tu sais, ces petits warnings là qu'on te fait. Voilà, je trouve que ça aide pour aller repartir, parce que j'imagine que quand tu as déjà joué une fois, t'as quand même un avantage par rapport aux gens qui le découvrent.
Bah, sur celui-ci, moins qu'à l'année du dragon. Enfin, à l'année du dragon, la première fois, tu peux te faire avoir et puis essayer de faire trop de points et du coup, t'assures pas assez tes arrières. Alors que celui-ci, c'est plus de la programmation et sur quoi je vais essayer d'aller, parce que je peux me faire piquer les ressources et puis j'ai pas du tout ce qu'il faut, ou je suis beaucoup trop loin. C'est pas tout à fait la même sensation. Tu te bats pas contre les malheurs du jeu, tu te bats plus contre les autres.
Et c'est des parties, tu disais tout à l'heure, tu savais pas combien de temps ça va durer, enfin il y a une petite incertitude sur la durée, mais toi quand tu y as joué, c'était des parties qui duraient combien de temps?
J'ai pas regardé, peut-être 2 heures, je pense 2 heures. Alors, tu sais pas si ça va durer entre 13 et 16 tours, en fait. Tu sais que ça va être entre les deux, enfin, ça peut être 13 comme ça peut être 16 ou au milieu.
Parce que j'ai l'impression que c'est un jeu qui est quand même assez intense en fait. Tu vois, enfin, comme il y a tellement de possibilités et de... Enfin, je sais pas, c'est l'impression que j'ai que bah, 2 heures, du coup, tu dois être bien rincé.
Ouais,
quand même.
Ouais, ouais. Ah bah, ça secoue du neurone, ouais. et pourtant, t'es limité autant dans les ressources que dans ce que tu vas pouvoir faire. Hein.
Oui, oui, finalement, ça oriente aussi tes choix, quelque part.
Ouais, tu prends ce que tu peux.
Oui, c'est ça.
Soyons réalistes, au final, on fait ce qu'on peut.
Et tu l'as en français, il y a eu une VF sur ce jeu ?
Alors, tu n'as pas besoin de l'avoir en VF, hein, c'est des tuiles qui n'ont pas de texte.
Ouais, d'accord.
J'ai récupéré une règle en français, en fait, sur BGG. Grand bonheur, il y a eu une correction des règles, parce que vraiment, c'est imbitable. Hein. Et du coup, j'ai imprimé la version française.
Ah, super.
Par contre, ça ne corrige pas sur le plateau. Alors, je sais qu'il y a eu une nouvelle version en 2019. Ils ont fait une réédition. Et écoute, en regardant les photos, je n'ai pas l'impression qu'ils aient corrigé beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, c'est toujours aussi marronasse. Hein.
Bon, très bien.
Enfin,
la traduction que tu as en français, c'est une traduction de François Asner, non ?
Même pas.
Parce que moi, celle que j'ai de Cardinal Unkenning, parce qu'il n'y a pas de traduction,
oui, c'est
française,
François.
C'est une mise en page de François Hafner sur une traduction de Bruno Feduti.
Excellent. Merci à tous ceux qui donnent du temps pour les règles.
Ben, oui, c'est dans les années 2000, c'était toujours un peu les mêmes noms que tu retrouvais quand même.
Ça fait une belle communauté.
Bon, bah, une thématique en jeu de pouvoir ce soir, et vieux jeux.
Et vieux jeux, oui.
Bon.
C'est marrant que ce soit 3 jeux qui nous ont bien bottés à tous les 3, quoi.
Excellent.
Sans concertation préalable.
Bon, on va essayer d'aller jouer à des nouveaux jeux.
Oui,
oui,
oui, oui.
On va essayer d'être à la mode, de suivre la hype.
Bon, bah, je vous laisse, j'ai une partie qui m'attend. Je vous fais des gros bisous.
Oui, bah oui, t'as pas fini ta partie.
À plus, salut.
À bientôt, salut. Et surtout, jouez bien.